et c'est marquant. Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'on essaie ? Eh bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'environnement et de décarbonation, cet enjeu existentiel pour l'Homo sapiens, et nous allons le faire grâce à l'ouvrage suivant, Géopolitique du carbone, sous-titré L'Europe en quête de puissance climatique, écrit, et ici ils sont mis à deux, par Marc-Antoine Hey Mazega et Diana Paula Gerasim. C'est aux éditions Le Cavalier Bleu, c'est sorti à l'automne dernier, en octobre de 2025, 191 pages pour la somme de 20 euros. Très franchement, il le vaut, franchement. Alors les deux auteurs, eh bien Marc-Antoine Hey Mazega est directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, et je vous dirai tout à l'heure ce que c'est que l'IFRI si vous ne le savez pas. Il a travaillé 6 ans à l'Agence internationale de l'énergie, la bien connue AIE, où il a notamment été en charge de la recherche sur la Russie et l'Afrique subsaharienne, où il s'est occupé plus particulièrement des analyses concernant le gaz et le pétrole sur ces zones, ainsi que des relations institutionnelles. Marc-Antoine Hey Mazega a travaillé à la Fondation Robert Schuman, où il a animé un observatoire sur l'Ukraine, et il a la double nationalité française et allemande, également docteur de l'Institut d'études politiques de Paris. Et sa co-autrice, elle, a travaillé, avant de rejoindre le Centre Énergie et Climat de l'IFRI qu'elle anime, elle a été conseillère dans le domaine des énergies renouvelables, chargée du suivi du cadre législatif énergie-climat en Europe à horizon 2030 pour Eurelectric. C'est l'association européenne qui représente les associations nationales d'électricité des États membres de l'UE. Elle a travaillé également en tant que conseillère au sein des services affaires européennes d'Engie, notamment en charge du suivi du pacte vert européen. Donc vous voyez, des gens qui sont parfaitement à l'aise sur ces thématiques et qui les maîtrisent parfaitement. Et l'IFRI, dont je parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui est leur employeur, eh bien c'est le premier institut français de recherche et de débat consacré aux questions internationales. Il a été créé en 1979, présidé par Thierry de Montbrial, et il est devenu aujourd'hui une institution de référence, écoutée par les décideurs et reconnue par ses pairs. Et d'ailleurs, je vous ai chroniqué dans cette dernière émission le livre de Thomas Gomard, qui en est le directeur, qui est historien et qui est un grand, grand spécialiste français des relations internationales. Pour ce qui est de l'éditeur, je voulais annoncer, ça s'appelle Le Cavalier Bleu, peut-être pas très très connu, créé en 2000. C'est une maison d'édition qui s'attache à renouveler des domaines bien établis de l'édition de sciences humaines. Leur phrase qu'ils mettent en exergue est la suivante: parce que nous avons plus que jamais besoin des sciences humaines pour rendre notre monde intelligible. C'est une équipe qui désirait rompre avec une certaine tradition, le refus de tout dogmatisme. Et ils ont aujourd'hui à peu près 200 titres. D'autres collections sont d'ailleurs venues enrichir le catalogue avec chaque fois la volonté de faire appel à des auteurs spécialistes dans leur domaine, des auteurs qui acceptent de relever le défi d'une vulgarisation intelligente et de la rendre ainsi accessible au plus grand nombre avec des analyses nuancées, des connaissances actuelles dans leur discipline. Alors la quatrième de couverture, eh bien je vous la lis. Alors que le monde reste très largement carboné, que le pic des émissions de gaz à effet de serre n'est pas encore atteint, la régulation du carbone et les technologies bas carbone sont un enjeu de rivalité entre puissances étatiques, entreprises, ONG et individus. Le climat, qui oblige à l'action commune malgré et au-delà des rapports de force, pose de multiples défis. Comment concilier développement des uns et protectionnisme climatique des autres? Quelle justice climatique entre pays riches et pollueurs et pays émergents ou vulnérables ? Assiste-t-on à la naissance de nouvelles puissances climatiques ? 10 ans après l'accord de Paris sur le climat, les auteurs dressent un état des lieux et des perspectives géopolitiques et géoéconomiques liées à la transition énergétique et à la décarbonation. La table des matières, un bref aperçu, introduction dans lequel on nous parle de ce carbone qui est devenu un objet éminemment politique, et ensuite 3 grands chapitres, le carbone comme enjeu géopolitique et géoéconomique, le carbone comme facteur de reconfiguration politique, et conclusion et perspective avec cette question, les politiques du carbone, facteur de puissance. Une bibliographie assez abondante, et puis ce qui est intéressant, un glossaire qui permet de s'y reconnaître dans une multitude de signes et d'abréviations. Alors, deux lectures un peu prises au hasard, celle-là est page 135, c'est intitulé « L'avenir des énergies fossiles ». Je cite « Toute la richesse des économies mondiales, en particulier celle des pays occidentaux, s'est construite en grande partie grâce aux énergies fossiles à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. Renoncer à l'utilisation des énergies fossiles pour répondre à l'impératif climatique » relève donc d'un défi extraordinaire, car cela suppose la refonte du modèle économique, industriel, énergétique des pays développés, tandis que pour les pays en développement, cela signifie imaginer une autre façon d'accéder au développement économique. Pour les pays producteurs d'énergie fossile, l'enjeu est de trouver de nouvelles sources de revenus et de changer de modèle pour passer d'une société de rente à une société productrice et innovante. Pour les pays émergents dont la stratégie de croissance repose sur une forte industrialisation, comme la Chine et l'Inde, réduire, voire se sevrer des énergies fossiles reviendrait à limiter leur potentiel de croissance et est vu comme une injustice par rapport aux pays développés. Après autre lecture, voyons, on va aller peut-être du côté de la page 89 où j'avais vu un texte qui me semblait digne d'être cité, enfin tous le seraient, parce que c'est un livre qui est très dense. Voilà, je cite. À cela s'ajoute, alors évidemment c'est extrait d'un chapitre, tiens, je vais commencer par le début du chapitre. L'adoption de la stratégie européenne sur la sécurité économique en 2023 marque un changement d'époque pour l'Europe, qui doit désormais se confronter à la réalité des distorsions de marché produites par les subventions des autres puissances industrielles, dont en premier lieu la Chine, des attaques contre ses infrastructures critiques, des campagnes de désinformation et d'ingérence, ainsi qu'à l'arsenalisation des dépendances critiques en vue d'exercer une coercition économique. Alors je ne lis pas plus avant parce que le chapitre se développe assez longuement, mais vous voyez l'esprit de cette écriture. Alors conclusion de cet essai, parce que celui-là, ce n'est pas tout le cas, il y a une conclusion. Bon, je vais vous donner quelques bribes hein, pour que vous imaginiez, que je vous donne surtout envie de lire le texte exhaustif. On nous dit qu'avec 2000 milliards de dollars d'investissement annuel dans les technologies bas carbone, c'est en forte augmentation et cette géopolitique du carbone bat son plein. Donc on est au cœur aujourd'hui de ce débat, mais elle prend la forme d'une bataille pour la maîtrise des technologies. Bataille qui va être âpre, on le comprend surtout quand on lit que pour l'Europe, il n'y a plus de retour en arrière possible. La poursuite de la dépendance aux hydrocarbures, ce n'est pas une solution, hein, car d'autres seront toujours mieux placés et disposeront de plus de ressources et encore à bas prix. Donc le seul pari possible pour les auteurs est celui de l'électrification des usages et de la production électrique décarbonée, tout en assurant quand même nos arrières et l'Union. L'Union, nous disent les deux spécialistes, doit impérativement éviter de passer d'une dépendance à la Russie pour le gaz à une dépendance à la Chine pour les technologies et les métaux, voire aux États-Unis pour la réglementation, le capital et le gaz. Voilà, c'est les quelques grandes lignes de cette conclusion. Et encore une fois, je pense que pour une meilleure compréhension, une meilleure cohérence, pardon, il faut lire la totalité du livre, bien sûr. Alors pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre et qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Eh bien, il va nous montrer qu'aujourd'hui les États sont face à la décarbonation, nous montrer que décarboner relève d'un défi et de nécessité géopolitique, expertise scientifique, intérêt économique, mobilisation politique, négociation diplomatique, tout ça compose un terrain et un thème à la fois de conflit et de coopération. Enjeu global pour l'humanité, cette géopolitique du carbone, c'est aussi, vous le comprenez, un enjeu de souveraineté. En décembre 2022, l'Union européenne a créé une taxe carbone à ses frontières. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est dommage. C'est un instrument tout à fait particulier. C'est un mécanisme d'ajustement qui a pour objectif d'élargir le système de l'écotaxe aux entreprises non européennes afin de ne pas pénaliser les seuls producteurs européens et d'éviter, et ça c'est très important, les délocalisations industrielles, il n'y en a eu que trop. Les recettes de cette taxe doivent alimenter le budget européen et financer en partie les efforts de décarbonation des États. Alors cette décarbonation, c'est devenu le mot d'ordre dans les pays avancés, vous entendez tout le temps parler, dans les pays avancés, mais aussi dans le reste du monde, en lien avec les négociations climatiques dans le cadre de la COP. Afin de lutter contre le changement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont le premier est le dioxyde de carbone. Donc ce carbone qui est devenu, sans conteste, l'ennemi public numéro un. C'est un des éléments chimiques les plus abondants sur Terre à l'état naturel, mais qui s'avère un véritable danger lors de sa combustion. Et cette combustion, sous différentes formes, a accompagné le progrès technique depuis la révolution industrielle. Si bien que celle-ci est désignée comme le principal réchauffement, le responsable du réchauffement climatique actuel, évalué à peu près aujourd'hui à 1,2 degré depuis le 19e siècle. Ça peut sembler tout à fait modeste, c'est tout à fait considérable au niveau de la planète. D'abord parce que c'est un chiffre moyen, mais ça produit des conséquences dévastatrices. Le prix du carbone aujourd'hui est très loin de compenser ses effets néfastes, il faut le savoir, et très loin de pousser aussi à une décarbonation accélérée. C'est un véritable enjeu de civilisation, cette décarbonation. Elle est devenue un objet géopolitique. Elle mobilise beaucoup d'acteurs étatiques, non étatiques, vous l'avez compris, ONG, associations, entreprises. Et le problème, c'est que tous n'ont pas forcément les mêmes agendas ni les mêmes stratégies, allant de la quête d'une gouvernance climatique efficace à la guerre écologique. Cet été, c'est marquant par Jacques Lavergne, avec à la réalisation Sacha Gauchy, que je remercie. Bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.